Radio Okapi.
Les jeunes et la promotion de la paix, nous en parlons encore aujourd'hui dans notre magazine 100% Jeunes. Pourquoi l'accès à l'éducation est-il fondamental pour la paix? Comment apprendre à cultiver la paix et comment vulgariser la paix par l'éducation? Telles sont les questions dans ce nouveau numéro de 100% Jeunes. À Kindu, dans le Maniema, avec quelques jeunes, nous parlons de l'impact de la paix dans leur milieu. Une marche a d'ailleurs été organisée à ce sujet. Et nous recevons également dans ce studio de 100% Jeunes Fatoumata Bari Marega, elle est chef de l'éducation au sein de l'UNESCO RDC. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de 100% Jeunes. Nous sommes à Kindu, dans le Maniema, où une marche de paix et de l'unité en faveur des jeunes a été organisée par l'aumônerie de l'Église catholique le 25 janvier dernier. Cette marche avait pour thème l'Église en mission pour la paix, tous frères travaillant pour la paix. Les jeunes des Églises catholiques anglicanes et ceux de l'Église du Christ au Congo et ECC en sigle ont marché sur les grandes artères de la ville de Kindu. Hervé Manji, président des jeunes étudiants catholiques, nous parle de l'impact et la promotion de la paix dans les milieux universitaires.
Premièrement, ce qui m'a intéressé, c'est de voir l'unité entre jeunes. Quand on marchait, moi-même j'avais du mal à connaître qui est catholique et qui ne l'est pas, qui est méthodiste et qui ne l'est pas. Donc, premièrement, c'est cette unité-là. Et comme on dit toujours, une récollection, un enseignement commence après l'enseignement. Il y avait certainement des étudiants, il y avait même des professeurs d'université, de recteurs, de directeurs généraux de différentes institutions. On a marché avec eux. Et pour nous, c'est déjà une participation très capitale parce que ce sont ceux qui nous donnent des enseignements dans des universités et nous espérons peut-être leur participation dans cette marche, ils pourront déjà commencer à combiner les enseignements scientifiques et la vie pratique pour nous donner un enseignement de qualité et surtout qu'ils seront les premières personnes à promouvoir la paix dans les milieux universitaires parce qu'il s'est constaté dans plusieurs institutions de la ville de Kindu particulièrement qu'il n'y a pas une culture de paix dans les institutions. Et donc nous, étudiants chrétiens, nous devons être artisans et surtout le promoteur de paix dans le milieu universitaire. Jadis, la province du Maniema et particulièrement la ville de Kindu était considérée comme berceau de la paix. Les événements malheureux qui venaient de se passer, ce dont nous condamnons fermement, c'est déplorable par les jeunes. Et nous-mêmes, jeunes qui aspirons devenir parents demain, quand on n'a pas la culture de la paix, on ne connaît pas promouvoir la paix, protéger la paix, je ne sais pas si nous nous préparons à devenir le parent de quel genre. À travers cette marche, nous avons montré aux jeunes que malgré qu'il y a une catégorie de jeunes qui se lancent dans la barbarie, il y a une autre catégorie qui se lance pour la promotion de la paix. Cette marche devra peut-être aider ceux qui se laissent entraîner dans la barbarie de reprendre leur conscience. On est comme eux. Il y a parmi les étudiants, il y a parmi les licenciés, il y a les élèves. Ils doivent laisser cette culture-là. Ils doivent laisser le trouble qui ne le profite en rien et être artisans de paix. Quand nous vivons en paix, même parmi ces jeunes-là qui ont fait des troubles ici, ils doivent laisser, nous sommes de tels camps pour quelque chose qui ne vous serve à rien et revenir dans la vie normale et vivre dans la paix.
Albertine Ange Yuma, une jeune chrétienne de l'Église catholique, a aussi pris part à cette marche. Elle nous explique comment reconstruire la paix. Écoutons-la.
Une marche qui a été au moins bénéfique pour moi. C'est ma toute première fois de me réunir avec les gens de l'église méthodiste et anglicane. Voir leur façon de chanter, souvent c'est une grande découverte. Quand on découvre, il faut prendre ce qui est bon des églises. J'ai compris aussi qu'il y a une liberté. Donc l'homme est libre. Je ne peux pas condamner l'autre parce qu'il prie dans telle ou autre église. L'essentiel c'est d'atteindre le ciel. L'objectif, je ne peux pas condamner l'autre parce qu'il ne prie pas dans une même église que moi. Mais je dois aider, aimer l'autre comme moi-même. Notre marche aujourd'hui, c'est vrai que nous avons été une minorité, mais ce que je comprends, un stick d'allumette peut brûler tout un village. Donc un jeune peut changer toute une ville, toute une province, un seul jeune. Donc avec le nombre que nous étions là, nous pouvons au moins amener les messages jusqu'au fin fond de notre province, parce que la ville actuellement a vécu des moments un peu difficiles, insupportables, que les jeunes ont causé. Et ces mêmes jeunes sont encore dans la forêt, où ils sont en train de mener des problèmes vraiment. Si ils comprennent au moins les messages, pourquoi nous seulement ici en ville, nous nous préoccupons de ce qui se vit ailleurs, c'est parce que nous voulons qu'eux aussi vivent comme nous. Nous ne sommes pas égoïstes, la vie appartient à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous aurons besoin d'eux là-bas. Un jour, tu peux être envoyé dans le village, comment est-ce que tu vas arriver là où il n'y a pas la paix? Donc la paix, c'est le message que nous avons pour la marche. La marche a été pacifique, donc la paix est recommandée dans nos familles. Nous, nous sommes en paix. Si nous n'étions pas en paix, on n'allait pas faire cette marche. Et nous voulons aussi donner cette même paix à tous nos frères qui souffrent par-ci, par-là, à cause des guerres causées par les jeunes. Si vous constatez bien, le message est passé. Nous avons commencé, nous avons au moins parcouru tous les deux quartiers qui ont causé au moins les désordres dans notre ville. Nous avons commencé avec Cité La Lumbulumbu, les gens nous ont vu. Cette marche pacifique, donc ils sont en train de chercher la paix. Nous sommes passés par Jamaïque, là où se trouvaient les camps. Les gens lisaient par rapport à notre calico que nous avons au moins projeté bien avant nous, là devant. Ils ont lu. Et ce n'est pas fini. Je crois que les médias vont aussi nous aider. Le message continuera à passer. Vu que la paix se vit. La paix ne se dit pas. Nous pouvons parler, mais l'essentiel, c'est de vivre cette paix. C'est ce que nous avons besoin. La vie de la paix. Vivre dans la paix. Après, ici, nous, nous sommes comme des missionnaires. Nous avons fini ici, mais ce qui reste, c'est seulement vivre maintenant. C'est ce qui est important, la pratique de la paix. La paix, on peut parler ici, là, au micro, on se parle, mais l'essentiel, c'est de vivre d'abord cette paix, en commençant par les familles, non? Ce sont les jeunes qui mènent des problèmes, qui font en sorte qu'il n'y ait pas de paix dans des familles. Et ces mêmes jeunes sont dans la forêt, ces mêmes jeunes s'élèvent aujourd'hui en ville, des révoltes par-ci, par-là, au lieu de chercher la paix, travailler, au moins pour donner un plus dans le monde, parce que le monde appartient à la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait le monde. Tout ce que je comprends, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une seule femme peut changer 10 hommes. Une seule femme. Donc, nous sommes capables et je suis déterminée qu'une seule femme peut aider à ce que les jeunes puissent comprendre c'est quoi l'importance de la paix. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des troubles, c'est la femme qui souffre. Nous pouvons aider nos amis qui sont à côté de nous, leur apprendre à vivre cette paix pour préparer l'avenir.
Un autre participant à cette marche, c'est Hervé Tchosso, président des jeunes ecclésiastiques du district de Kindu. Il nous explique que faire pour promouvoir l'unité des jeunes.
Oui, nous sommes d'abord très heureux de voir cette marche. On pouvait dire que ça tombe du ciel, c'est un cadeau pour nous, la jeunesse. Et nous disons que c'est un moment fort qui nous permet, nous, les jeunes chrétiens, à être modèles. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les croyants en parole, en acte, en foi. Et ce qui peut nous aider à être modèle. Nous, en tant que jeunes chrétiens, nous avons fait un pas. Nous voulons montrer au monde que nous sommes modèles. Et par ça, nous pouvons aider les autres à être transformés, à quitter cet état de barbarie et à suivre le bon chemin et à faire ce qui est bon pour la société et ce qui m'a tiqué. La force et la gloire de la jeunesse. Nous, en tant que jeunes chrétiens, nous sommes une force. Et cette force, c'est notre gloire. Et dans cette force, nous voulons à ce que le jeune puisse être transformé. Nous voulons aller comme l'ordre nous a été donné. Nous devons aller vers les autres jeunes, aller les aider à être transformés, à quitter cet état et à suivre ce qui est bon pour eux. Vous savez que dans notre pays, il y a un problème d'emploi. Il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il y a plusieurs jeunes qui ne savent quoi faire pour aider leur famille, leur entourage. Et c'est pour cela que nous voulons à ce que le jeune puisse entreprendre. Dans ce cas, nous devons créer des initiatives qui peuvent aider les jeunes, surtout ceux-là qui sont désœuvrés et qui ne savent quoi faire. Et même certains étudiants ou ceux-là qui ont déjà fini les études, qui n'ont même pas d'emploi, ils doivent faire un effort de créer des petites petites activités qui peuvent les aider à être déconcentrés de différentes barbaries et ça pourrait être mieux pour eux.
Nous nous tournons à présent du côté des organisateurs. D'abord, monsieur l'abbé Henri Mundeke, aumônier des jeunes diocésains. Pour lui, cette marche, qui n'a pas exclu d'autres confessions religieuses, est une interpellation aux gouvernants et aux jeunes.
C'était dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce n'est pas une exclusion, mais c'est un fait que nous constatons. De toutes les façons, ce n'est pas ce qui nous préoccupe, mais nous savons que notre message intéresse aussi les musulmans, parce que les musulmans, l'islam, c'est une religion de la paix. Ça, nous savons très bien. Et que nos frères musulmans aussi travaillent ou s'activent pour la paix. C'est très intéressant. Cette sensibilisation nous a été accordée par la mairie à la veille. C'est là que nous avons confirmé notre marche et nous avons activé toutes les batteries pour passer à la marche. À part cela, le grand message que nous allons donner aux gouvernants, qu'ils puissent aussi mettre la main dans la pâte pour trouver la paix. Le pape Benoît XVI nous disait « La paix, c'est le nouveau nom du développement » ou « Le développement est le nouveau nom de la paix ». Nous, les jeunes, au lieu de nous attarder dans des distractions ou dans l'oisiveté, que nous puissions nous concentrer aussi pour préparer notre avenir. Les temps de la jeunesse que nous passons sans rien faire peut nous causer des dommages dans notre vie. Mais si nous capitalisons ces temps, ça va être bénéfique et pour nous-mêmes et pour la société. Nous lançons un message aussi à tous les jeunes. Je sais qu'ici à Kindu, particulièrement dans notre ville, il y a des quartiers où des jeunes stationnent au nom de quelques politiciens dont nous ne voulons pas citer le nom par courtoisie, mais nous voyons des jeunes de Jamaïque qui se nomment Kankokolo, de Lumbulumbu, on ne sait pas de quel nom, des jeunes de tel quartier assemblé ou quoi. Tous sont des jeunes, ce sont les fils de cette ville. Nous avons tous intérêt à travailler dans l'unité, dans la paix, dans l'harmonie. Même si nous venons de tel quartier, mais de toutes les façons, nous nous rencontrons même au marché, à l'église, dans nos services et partout là, nous avons besoin d'être à l'aise, de vivre dans la paix, d'être rassurés qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire du mal à côté ou qui peut me causer du tort, qu'on soit à l'aise. Que les politiciens utilisent plus les jeunes dans le bien plutôt de les manipuler ou de les désorienter dans le mal. Et aussi la jeunesse, qu'elle ne soit pas déroutée parce que la jeunesse est aussi intellectuelle, qu'on puisse s'efforcer aussi de ne pas nous laisser manipuler. Nous avons cette conscience de rechercher la paix, que nous puissions travailler pour la paix. Que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit sur la route, que ça soit dans mon service, que ça soit au stade, je dois avoir toujours ma casquette de chrétien.
Le révérend Félix Okende, aumônier des jeunes méthodistes unis, invite les jeunes à bien canaliser leurs forces et à l'État de bien encadrer la jeunesse.
Mon interpellation envers tous les jeunes de la ville de Kindu et c'est de la province du Maniema en général est de leur dire que leur force n'est pas destinée à couler le sang, à faire les casses ou à briser, à se bagarrer, mais la force de la jeunesse, c'est une force qui doit être orientée pour la transformation. Au lieu que les jeunes se bagarrent, mais qu'ils se mettent même à canaliser le l'eau qui est en train de secouer la ville avec les érosions, même à faire la propriété des toilettes, à dégager les herbes. Aussi un message à notre État est de bien travailler pour l'intérêt de la jeunesse. Parce que nous avons constaté que l'État parfois abandonne la jeunesse pour des intérêts privés de certaines sociétés ou bien de certaines institutions. Parce que même ce que nous attendons à Salamabila, même à Kailo avec le problème des jeunes de Kailo avec l'ICSN, donc c'est l'État qui est responsable, c'est l'État qui est l'arbitre qui doit trancher clairement quel est le droit de la jeunesse pour que les jeunes puissent un peu être occupés. Lèvons-nous et bâtissons. Il faut un peu voyager pour aller voir ce que font les autres et puis nous pouvons nous dire quelque chose. Donc j'invite la conscience des jeunes de Kindu, au lieu de casser, au lieu de faire quoi que ce soit, maintenons-nous au travail, au lieu que nous puissions nous livrer à casser des vitres, à faire les vols, cela nous importe peu.
Vous le savez, nous parlons aujourd'hui des jeunes et la promotion de la paix sur Okapi, dont 100% jeunes. Et nous recevons à cet effet Madame Fatoumata Bari Marega. Elle est chef d'éducation au sein de l'UNESCO ici en RDC. Madame Fatoumata Bari Marega, bonjour.
Bonjour Baya.
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation.
On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau de 100% jeunes. Première question que j'aimerais vous poser, c'est depuis combien de temps que vous êtes au sein de l'UNESCO ?
Alors, je suis à l'UNESCO depuis le 1er février 1996, donc c'est-à-dire exactement 24 ans il y a 10 jours. J'ai rejoint l'UNESCO au siège, à Paris, il y a 24 ans. Et depuis, bon, j'ai fait 13 ans au siège et le reste de ma carrière dans les bureaux au siège. Mmh. Donc, en l'occurrence, le Sénégal, le Cameroun, la RDC aujourd'hui, en appuyant pas mal de pays de la région, la plupart, disons.
Quelle est la mission fondamentale de l'UNESCO ?
Alors, je vais commencer peut-être par l'acte constitutif de l'UNESCO, qui dit que la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que s'érigent les défenses de la paix, à travers l'éducation, la culture, la science, les sciences sociales et humaines, la communication. Donc, à travers les 5 domaines de compétences de l'UNESCO, plus ces domaines transversaux, la mission de l'UNESCO, c'est vraiment de cultiver la paix à travers les hommes, à travers la science, à travers la connaissance.
Vous vous occupez ici au RDC du bureau de l'éducation. En quoi cela consiste exactement ?
Alors, rectifier un tout petit peu. Voilà, donc je suis au bureau de l'UNESCO à Kinshasa, qui est un des premiers des Nations Unies, je préfère le dire. Les premiers à avoir ouvert ici dans les années 1960. Je pense que c'est la première agence ici, entre autres. Et donc, je suis responsable éducation dans le bureau de l'UNESCO depuis 4 ans et demi ici. Voilà, et donc je m'occupe d'appuyer la RDC pour élaborer ses programmes éducatifs, ses politiques éducatives, des stratégies d'éducation et tout ce qui touche à l'éducation autour. Donc voilà, des programmes de renforcement de capacité en l'occurrence. Et donc le pari que l'UNESCO fait, c'est vraiment de travailler avec les institutions et pour les institutions. Donc on travaille pour le renforcement des capacités institutionnelles.
Pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi l'accès à l'éducation est fondamental pour la paix, selon vous ?
Je pense que je vais avoir 3 points d'entrée principaux. D'accord. Je vais vous dire qu'au cœur de la paix, l'éducation est tout simplement un autre terme pour désigner la consolidation de la paix. Ça, c'est l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon qui le disait. Dans le même sillage, le bienheureux pape Jean-Paul II a affirmé « L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. » Fin de citation. C'est par l'éducation qu'on transmet les connaissances, les compétences, les attitudes, les aptitudes, les valeurs. Et c'est par elle qu'on décide du profil de citoyen, du profil d'homme et de femme qu'on souhaiterait avoir, qu'un pays souhaiterait avoir et qu'un pays voudrait avoir pour le concert du développement. Voilà. Et donc, c'est par l'éducation, justement, qu'on inculque toutes les valeurs de base. Donc, pour se dire, je peux vivre avec mon prochain. Je ne le cogne pas quand je suis pas content. Je lui marche pas dessus. Je ne le tue pas. Je ne le viole pas. Et donc, tout cela passe par l'éducation. Et l'éducation n'est pas forcément à l'école seulement. L'éducation, elle est formelle, elle est informelle, elle est non formelle. L'éducation, c'est pas à l'école seulement. C'est aussi l'école, mais c'est pas à l'école seulement. Et donc, elle est importante dans la vie de l'homme. Elle est importante pour le bon fonctionnement d'une société, comme nous venons de le dire, pour les grandes nations. Elle fait développer l'homme ainsi que la société dans laquelle il évolue. C'est la clé du progrès humain. Comme clé du progrès, elle devient l'élément moteur du développement. Donc, vous voyez, on fait un lien direct entre la paix, l'éducation et le développement, parce qu'elle est capable de transformer l'homme, de lui apprendre à pratiquer des valeurs comme l'amour, comme la justice, comme la vérité, le travail, le respect de la vie humaine. Ceci nous amène inévitablement sur la tripartie, comme je disais, éducation, paix et développement, n'est-ce pas ? Alors, donc, avec le point d'entrée par la paix, comme vous le disiez, de nos jours, ce sont des conflits violents qui sont à l'origine des plus grandes difficultés de développement dans le monde. Les enfants et les systèmes éducatifs se trouvent souvent en première ligne de ces conflits violents. La montée d'un extrémisme et d'une radicalisation violente représente une grande menace pour nous tous. Voilà. Et donc, les membres des groupes radicaux adoptent des idéologies politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses, et de plus en plus extrêmes, et utilisent la violence pour atteindre leurs objectifs. Et pour combattre cela, quoi d'autre si ce n'est pas l'éducation? Donc, les pays sont également confrontés à la difficulté que représente le traitement objectif des causes structurelles des conflits, donc les root causes, comme on dit, profondément ancrées, émanant d'injustices historiques qui remontent à loin, et des marginalisations de corruption, entre autres. Voilà. Et donc, l'acquisition des savoirs permet de combattre l'obscurantisme, le fanatisme, et renforce l'esprit critique qui permet aux individus d'évaluer la pertinence de leurs actes, leurs comportements et leurs jugements. Donc oui, effectivement, doter les générations, les jeunes générations, générations futures, de connaissances et de compétences, leur permettent aussi de vivre ensemble, de s'accepter, d'accepter la différence de l'autre. C'est pas parce que je suis différent de toi que je dois te faire peur. C'est pas parce que je suis différent de toi que je suis mauvais. Mais qu'est-ce qu'on a d'apprendre? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de quelqu'un de différent en face et tout ça? Donc tout cela passe par une éducation de base, une éducation aux valeurs, une éducation à la coexistence pacifique. Ok, donc la coexistence pacifique entre les personnes et tout. Donc entre les générations aussi. Donc pouvoir se comprendre, se connaître, s'accepter mutuellement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'autre et tout ça. Et donc tout cela passe par l'éducation. J'aime bien dire une éducation sans culture est une instruction. Vous formez des robots. Mais si vous alliez cette éducation à l'identité culturelle, donc vous répondez exactement à ce que vous êtes en train de dire, à la question que vous avez posée, il faut que ce soit une éducation adaptable, une éducation adaptée aux valeurs culturelles, au milieu, aux besoins et tout ça. D'accord ? Et donc, on aime bien réduire ou restreindre l'éducation à l'école. Oui, l'école. Un excellent système éducatif avec des bases fondamentales solides, des politiques éducatives claires, des programmes compétitifs, des enseignants bien formés et tout ça, avec des systèmes d'évaluation qui suivent. Oui. Mais les laisser pour compte qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école. Les déscolarisés, les non-scolarisés, on en fait quoi? C'est pas à l'école qu'on les récupère, ceux-là. On les récupère à travers des modèles alternatifs, à travers tout un dispositif d'éducation tout au long de la vie qu'il faut donner. Donc vous avez tout ce qu'on appelle aujourd'hui, comme l'UNESCO promeut, donc l'éducation tout au long de la vie, lifelong learning, l'alphabétisation, l'éducation non formelle. Okay, on fait de l'alphabétisation fonctionnelle à l'intérieur. Et à l'intérieur aussi, vous avez du vivre ensemble. Vous avez des compétences de vie courante qui sont intégrées et tout. Donc vous avez toutes les questions d'éducation à l'emploi qui ne sont pas forcément des choses formelles ou qui passent par des instituts de formation professionnelle pure et dure et tout ça.
Comme quoi, par exemple?
Donc vous avez... alors ici au Congo, vous avez ce qu'on appelle les CAP, je crois, donc qui sont tous les systèmes d'apprentissage informels qui existent, qui gagneraient à être structurés, renforcés, pour qu'ils offrent une éducation tout aussi solide, des offres de formation à l'emploi tout aussi solides que le secteur formel.
Et là, directement, je pense qu'on est en train de répondre à l'une des questions importantes de cette émission, comment vulgariser la paix à travers l'éducation, ou encore comment apprendre à cultiver la paix à travers l'éducation de manière plus pragmatique et plus concrète. Est-ce que vous avez des cas d'exemples, par exemple, lors de vos missions autour de la paix et de l'éducation, par exemple, que vous avez pu mener ici en RDC?
Alors, peut-être avant d'arriver à cette question-là qui nous ramène à des exemples d'intervention peut-être de l'UNESCO, mais l'UNESCO pas seul, souvent avec ses partenaires. Donc, l'UNESCO fait partie vraiment du groupe des Nations Unies avec ses agences sœurs et du travail. Mais aussi, elle travaille avec le groupe des partenaires techniques et financiers composé de bilatéraux, de multilatéraux et tout ça. Et donc, ensemble, nous travaillons à promouvoir une éducation de qualité pour tous. Et nous sommes tous guidés, comme vous le savez, par ce qu'on appelle l'objectif de développement durable numéro 4, l'ODD 4.
Oui.
Et là, votre thématique particulière sur la paix s'inscrit dans la cible 4.7 de l'ODD 4,
oui,
qui qui consiste à faire en sorte que tous les élèves acquièrent des connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et des modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. Ça, c'est la cible 4.7 de l'ODD 4. Donc l'ODD 4 qui est vraiment, que je vais rappeler, hein,
oui,
je pense.
Objectif de développement durable, du millénaire. Donc, oui.
Voilà, qui cherche à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Mmh. Donc vraiment, toute la question de l'éducation aujourd'hui, hein, donc après les 15 années, après les 15 années qui ont suivi les OMD et donc l'éducation pour tous et tout ça, donc il y a eu cette grande réunion de Incheon où les États se sont remis ensemble et ont adopté donc cet agenda qui fait partie de l'agenda 2030 et tout, hein, mm-hmm. Donc un agenda spécifique qui touche à l'éducation, qui est l'ODD 4. Donc, qui a 7 cibles et 3 moyens, je pense, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Voilà, et donc, comme je l'ai cité tantôt, oui. Voilà, donc l'ODD 4.7, donc, c'est vraiment spécifique à tout ce qui est éducation tout au long de la vie, avec vraiment des ingrédients de paix, de coexistence pacifique, développement durable ensemble et tout.
Alors, au Maniema, par exemple, on a rencontré quelques jeunes qui nous expliquaient un peu comment ils s'organisent pour parler de l'impact de la paix dans leur milieu à travers l'éducation. Est-ce que l'UNESCO, par exemple, accompagne les jeunes qui s'organisent dans ce sens? Est-ce que l'UNESCO serait aussi donc intéressé d'accompagner ce genre de jeunes-là?
Oui, absolument. Vous savez, je vais revenir sur une initiative qui s'appelle 100 jeunes pages d'espoir, pour laquelle vraiment l'UNESCO...
qu'on a accompagné justement ici aussi.
L'UNESCO les a accompagnés vraiment tout au long de leur première édition et tout ça, de la caravane de la paix et tout. Donc, non, ce sont des activités que l'UNESCO promeut et tout, et se propose de continuer à promouvoir et tout, essayer d'accompagner justement la paix, parlons-en, que les jeunes soient des acteurs de paix et tout. Donc, à travers des actions citoyennes, à travers des activités concrètes, à travers des gestes compréhensibles de tous et tout ça, qui peuvent avoir un impact plus tard. Et donc, le modus operandi de l'UNESCO, c'est vraiment au-delà du plaidoyer. Parce que le plaidoyer, il y a quand même des organisations qui le font et tout ça, c'est leur travail, hein, donc les activistes de la société civile.
Il y a aussi l'action sur terrain.
Voilà, l'action sur terrain, mais surtout, l'UNESCO travaille beaucoup en amont. En amont, donc, dans tout ce qui est politique, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est renforcement.
Avec les institutions.
Tout ce qui est renforcement de capacités, tout ce qui est production d'outils particuliers, tout ça, de normes standards et tout ça. Et donc, pouvoir accompagner vraiment des jeunes qui se mettent, des groupes qui se mettent en mécanisme et tout, donc des mécanismes de paix.
Nous allons à présent terminer avec les jeunes qui nous donnent ici quelques recommandations pour une paix durable.
Les gens doivent comprendre que le sang relève la vengeance de génération en génération. Vous avez tué l'autre, ça sera toujours ainsi. Ces quartiers-là, non, n'allons pas, ils ont tué nos grands-parents. Et la vengeance, c'est le plaisir d'une âme faible. Il faut au moins construire, au lieu de détruire ce que nos parents ont fait avec beaucoup de peine et de sacrifices. Les jeunes doivent avoir la culture des responsabilités. Les jeunes doivent au moins se chercher beaucoup plus pour construire. Et ce que je pouvais au moins interpeller aux autorités est qu'on ne peut pas au moins octroyer le prix Nobel de la barbarie ou de l'insolence, mais on octroie le prix Nobel de la paix. On ne peut pas encourager ceux qui ont fait du mal. Ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas seulement de donner aux jeunes aussi de l'emploi, mais de payer. Il y a des jeunes qui rentrent à la maison à 10 heures ou bien qui vont au boulot à 10 heures. Ils ne sont pas payés. Quelqu'un qui fait 10 mois sans être payé, qu'est-ce qu'il va faire? Il reste à la maison en train de parler de futilité, il va là pour signer. Donc il faut bien payer les gens pour qu'ils travaillent bien.
Je demande aux parents de garder leurs enfants parce que tout dépend de l'éducation de base. Si vous êtes vraiment éduqué par vos parents, vous ne pouvez pas faire des désordres. Et je demande aussi aux filles de ne pas se laisser faire. Veillez, étudiez et là vous verrez le changement de votre vie.
Pour moi, les jeunes ne doivent pas être influencés par n'importe qui.
Tout le monde parle de jeunes et les autres peut-être les condamnent, comme moi aussi. Nous condamnons ce que font les jeunes, mais au jour d'aujourd'hui, nous invitons les jeunes à être les artisans de paix et de cultiver l'amour, l'unité et la fraternité.
Pourquoi l'accès à l'éducation est-il fondamental pour la paix? C'était le thème central de notre magazine 100% jeune de ce jour. Merci à Mathieu Ilunga qui a participé à la production de ce magazine supervisé par Thérèse Kankou. La prise de son était assurée par Polydor Vasunga. Moi, c'est Baya Chamala. Je vous fixe un nouveau rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine des jeunes pour les jeunes avec les jeunes 100% jeunes la semaine prochaine sur la même radio, même heure. Ciao, ciao!